La Bible parle-t-elle de la laïcité ? Vaste sujet, amplement débattu, qui a donné lieu à un certain nombre de publications d'ailleurs, dont je serais bien en peine de toutes vous les citer, tellement elles sont nombreuses. Tout d'abord, je vous propose de définir la laïcité. L'État laïque, premier point de définition, l'État laïque n'a pas de religion propre et n'en privilégie aucune. Toutes les religions sont égales devant la loi. Deuxième élément de définition, l'État est neutre en matière de religion et n'intervient ni sur le contenu ni sur l'organisation des cultes ou des religions. Bien sûr, à condition que le droit soit respecté. Troisièmement, chaque citoyen est libre de croire à ce qu'il veut ou de ne croire en rien. Alors, cette définition d'un État laïque et de la laïcité est à compléter, je dirais, par diverses perceptions que les gens en ont. Alors, il faut d'abord dire que la laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres, comme si c'était une religion parmi d'autres. Dans notre pays de France, et dans le principe européen en tout cas de la laïcité offre la liberté à chacun de se forger son opinion, et n'est pas une opinion parmi d'autres, mais c'est un terrain neutre sur lequel on peut s'exprimer, dans le cadre duquel on peut s'exprimer. Alors, la grosse question en matière de définition de la laïcité, c'est la laïcité veut-elle limiter l'expression de la religion ou de la foi à la fameuse sphère privée, c'est-à-dire on a le droit de parler de Dieu seulement à la maison, ou alors la laïcité permet-elle d'exprimer sa foi et de dire ce qu'on pense dans la sphère publique? Alors, je vous propose de citer le président de la Fédération protestante de France, M. Claveroli, qui regrette, je cite, « la confusion cultivée dans les esprits entre le fait bien établi que c'est la République qui est, à juste titre, laïque, et le fait tout à fait discutable que ce serait la société, c'est-à-dire les citoyens eux-mêmes, qui devraient être laïcisés ou neutralisés religieusement. Or, les citoyens, pour une bonne partie d'entre eux, sont traversés par des convictions, une histoire, des traditions spirituelles, etc. » Un peu plus loin, donc, cette idée qu'il faudrait que les religions soient confinées dans un espace privé invisible percute et contredit l'idée même de la laïcité à la française, de même que l'esprit et la lettre de la loi de 1905, donc la loi de séparation des églises et de l'État. Je cite « Croire et lire » de 2015. La position du CNEF, du Conseil national des évangéliques de France, est de cet ordre, c'est-à-dire que la laïcité, c'est une laïcité d'égalité des religions dans l'espace public. Aucune ne peut se prévaloir d'une force gouvernementale supérieure aux autres, enfin d'une force civique en quelque sorte, mais elles ont droit à la parole, elles ont droit d'exister sur la place publique, dans la mesure bien sûr où elles respectent les lois de la République. Autrement dit, on peut être chrétien, et partisans de la laïcité tout en même temps. C'est même une évidence pour nous, chrétiens évangéliques. Dans notre histoire, d'ailleurs, ce sera intéressant de regarder l'histoire de l'émergence du principe laïque dans l'histoire de France, et ce qui a été vécu comme une libération par nos ancêtres huguenots. Il ne faut pas l'oublier. Alors, il faudrait quand même aller un peu plus vers la Bible maintenant, puisque nous sommes dans le cadre d'une étude biblique. Les fondements théologiques de la laïcité. Alors, cette recherche de fondements, je ne vais alors pas tout à fait encore ouvrir la Bible, mais ça va venir. Je voudrais quand même dire que cette recherche de fondements n'est pas un gadget récent pour légitimer notre foi dans le contexte actuel, très tendu, etc. Il y a une vraie base biblique posée il y a longtemps. Alors, essentiellement des théologiens anglais, au XVIIe siècle, nous ont donné des bases modernes, je dirais, pour la laïcité. Des théologiens évangéliques, puritains, des mouvements issus de la Réforme. John Locke, un théologien anglais, défenseur de la liberté de conscience, et je cite surtout, et on le cite surtout, souvent, hein, Roger Williams, un baptiste, ou un puritain au moins, il a été pasteur baptiste, du début du XVIIe siècle, pionnier du Nouveau Monde. Alors vous avez, il y a plusieurs documents qui parlent de Roger Williams, il y a un numéro spécial de études théologiques et religieuses, il y a aussi des chapitres dans deux livres que j'aimerais citer au passage d'ailleurs, c'est un livre édité par, enfin, on peut presque dire édité par le CNEF, « Libre de le dire, fondement et enjeu de la liberté de conscience et d'expression en France », et puis un livre de la collection Terre Nouvelle, « Laïcité, enjeux théologiques et pratiques ». Alors, je vais utiliser un peu ces livres. Et alors, je signale, pour revenir à Roger Williams, je signale qu'il a fondé, il a été pionnier du Nouveau Monde, et il a fondé un État laïque en 1638, bien avant 1905. Hein, en 1638, il a fondé un État laïque dans le Nouveau Monde, donc l'État de Rhode Island, et dans lequel il disait, je vais citer une de ses déclarations, dans un de ses écrits, « C'est la volonté et le commandement de Dieu que soit garantie à tous, dans chaque nation et dans chaque pays, la liberté de conscience et des cultes. » Et il stipulait qu'il faut une obéissance, il instaurait un État avec des lois, une constitution, et il fallait obéir, mais uniquement, il précise bien, dans le domaine civil, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir toutes sortes d'opinions religieuses, spirituelles, philosophiques, et on en avait la totale liberté, mais dans le domaine civil, ben, il fallait obéir aux lois. Voilà. C'est tout à fait ce qu'on a en France, et voilà, quelques siècles après, on est venu à la même position. Et alors, il faut citer un peu plus loin encore dans l'histoire de l'Église, au moins un père de l'Église, Tertullien, qui est cité par un historien mennonite, Neil Blauk, dans Libre de le dire, le livre que j'ai cité tout à l'heure, que l'on soit, alors je cite, donc Tertullien, deuxième siècle, que l'un soit libre d'adorer Dieu et l'autre Jupiter. Et un peu plus loin, prenez garde que ce ne soit déjà un crime d'impiété que d'ôter aux hommes la liberté de la religion et de leur interdire le choix de la divinité, c'est-à-dire de ne pas me permettre d'honorer qui je veux honorer, pour me forcer d'honorer qui je ne veux pas honorer. Il n'est personne qui ne veuille des hommages forcés, pas même un homme. Bien dit, je trouve. Fin de citation. Alors, il y a des contre-exemples, malheureusement. Il y a Augustin, par exemple, qui dit dans un commentaire sur, vous savez, dans la parabole du grand festin, cette petite phrase de Jésus quand il y a les derniers groupes, après tous ceux qui n'ont pas voulu, qui ont trouvé des excuses pour venir répondre à l'invitation du maître, c'est dans Luc 14, le maître de cérémonie dit allez chercher les SDF, quoi, les personnes qui errent ici et là, et contraint-les d'entrer, dit le texte. Alors voilà, on contraint d'entrer les mécréants dans l'Église, et puis ça a été le prétexte à des persécutions chrétiennes par amour. Alors, je mets d'énormes guillemets là-dessus, mais enfin, ça fait partie des lectures totalement abusives qu'on peut avoir des paroles de Jésus. Je préfère en rester à Roger Williams, qui en tant que pionnier protestant, moderne, nous donne quand même matière à réfléchir. Alors, les bases bibliques pour notre sujet. Premièrement, il faut parler d'Israël. Oui, sujet d'Israël, le roi n'avait pas à offrir des sacrifices. On peut parler d'une certaine laïcité. Bon, c'est un très grand anachronisme, hein, il ne faut pas en parler, mais je le dis puisque c'est notre sujet. Le roi n'avait pas à offrir des sacrifices. Saül, par exemple, a été hautement condamné par le prophète Samuel de l'avoir fait. Ça dit bien que le pouvoir politique et le pouvoir religieux étaient bel et bien séparés. Mais, et il y a un mais important, le pouvoir politique maintenait quand même la pureté du pouvoir religieux. Le faux prophète était puni de mort, d'après Deutéronome 13. Sous la réforme de Josias, qui était un roi, on ordonnait des réformes religieuses. Alors, Deux Rois, chapitre 22. Alors, il faut dire, alors, je ne cite que deux exemples, mais il y en aurait d'autres, bien sûr, très très nombreux, qui témoignent de l'imbrication du pouvoir politique dans le religieux et du pouvoir religieux dans le politique. Les réformateurs se sont inspirés de ce mode de société. Il faut t'interroger cette inspiration par les réformateurs. Le peuple de l'Ancienne Alliance était une nation théocratique, avec un gouvernement, un pays, une langue. C'était ce qu'on peut appeler une nation. On peut sans doute tenter un parallèle entre cette nation et le peuple de l'Église disséminé parmi les nations. Mais il n'y a aucun sens à tenter un parallèle entre Israël et un pays actuel, comme la France, comme la Suisse ou comme l'Allemagne. Les réformateurs pensaient, alors ça notamment était le cas à Genève, où on parlait de la Genève de Calvin. Hein, donc c'était bien à dire que le religieux qui était Calvin imposait un mode de vie civique aux Genevois, ce qui a posé finalement problème, et dont il faudrait parler plus longuement bien sûr, mais prenons-le simplement comme un jalon, comme un exemple de passage sans chercher à creuser plus loin. La position des pionniers puritains comme Williams, dont j'ai parlé il y a quelques instants, est autre. Ils ne vont pas considérer que l'Église est un, ou du moins que les pays, le pays dans lequel on est un prolongement de l'Église, est un nouvel État d'Israël. Pas du tout. Ils vont considérer que les bases bibliques conduisent à faire l'indistinction. Et j'aimerais en venir à quelques paroles maintenant de quelques textes bibliques que je vais regrouper sous un sous-titre qui est « Vie civile et vie spirituelle ». Alors, tout d'abord, Jésus. Jésus, dans une diatribe ou dans une polémique avec des docteurs de la loi, a dit cette fameuse phrase qu'on connaît encore aujourd'hui, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Alors, ça se trouve dans Matthieu 22, 21, puis il y a les parallèles dans Marc 12 et Luc 20. Matthieu 22, 21, je vous propose d'en faire une brève lecture. Maître, nous savons que tu es franc et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans te soucier de personne. Donc des flatteries, hein, voilà, pour bien susciter l'attention de Jésus, qu'ils vont essayer de piéger. Dis-nous donc ce que... Alors, ce sont les pharisiens hein, qui parlent. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer la capitation ou l'impôt à César ? Mais Jésus, qui connaissait leurs mauvaises intentions, répondit « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie la capitation. » Ça, c'est la Nouvelle Bible Seconde qui donne ce mot un petit peu savant, cet impôt, l'impôt. Ils lui présentèrent un denier. Il leur demande « De qui sont cette image et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ces pharisiens voulaient faire rentrer Jésus dans le terrain politique pour pouvoir l'y piéger. S'il disait qu'il fallait payer l'impôt, on le traitait de collabo et il perdait tout crédit auprès du peuple. S'il disait qu'il ne fallait pas payer l'impôt, on le traitait de révolutionnaire et il se faisait arrêter et exécuter en tant que tel. À ceux qui voulaient le forcer d'entrer sur le terrain politique, et donc pour l'y piéger, Jésus prône, quelque part, la séparation. Du pouvoir religieux et du pouvoir du domaine religieux et du domaine et du pouvoir politique. Alors c'est une phrase toute simple qui est facile de retenir et qui peut nous servir de leitmotiv en quelque sorte, parce que ce que Jésus a dit là est sans doute toujours vrai, même si je dis sans doute parce que le contexte est radicalement différent. La parole de Jésus demeure toujours vraie, mais elle s'applique particulièrement bien à notre contexte d'aujourd'hui. L'apôtre Paul, maintenant. L'apôtre Paul, dans le même registre, hein, vie civile et vie spirituelle, recommande d'être soumis aux autorités, Romains chapitre 13, et va même nous surprendre au moins. Parce qu'il va dire des choses qu'on aurait peut-être du mal à dire aujourd'hui. Je lis chapitre 13, verset 1. Que chacun soit soumis aux autorités établies, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. Je vous rappelle que Paul était sous l'Empire romain, hein, qui n'a pas toujours été très tendre avec les chrétiens et autres. Je poursuis la lecture. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre de Dieu. Ceux qui s'opposent attireront un jugement sur eux-mêmes. Les chefs, en effet, ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte l'épée. Elle est en effet au service de Dieu pour faire justice pour la colère contre celui qui pratique le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la colère, mais encore par motif de confiance. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les gouvernants sont attachés au service de Dieu pour cette fonction même. Rendez à chacun ce qui lui est dû. Alors là, on entend la phrase de Jésus hein, en arrière-plan. Hein. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Fin de citation, verset 7. Donc, l'apôtre Paul intègre le civisme, l'esprit citoyen, à la théologie chrétienne. Il dit « Tu es un bon chrétien ?» Alors, sois un bon sujet de l'Empire romain. Sois un bon citoyen, on dirait aujourd'hui. Par motif de conscience, il le dit bien au verset 5. Par motif de conscience, pas seulement parce qu'on a peur de se prendre une amende, mais parce que, une amende ou autre chose, hein, mais parce que tu veux te soumettre aux autorités. Par motif de conscience, c'est-à-dire par motif de foi. Et je rappelle que les autorités établies, et je reprends l'expression de Paul, n'étaient pas spécifiquement favorables aux vertus, aux valeurs chrétiennes, comme on dirait aujourd'hui. Paul avait bien compris que la vie civique n'était pas un prolongement de la vie d'Église pour autant, mais c'est un positionnement chrétien de se soumettre aux autorités, et donc d'en comprendre l'altérité, la différence. Il ne s'agit pas de se soumettre au chef religieux. Il ne s'agit pas de rester en communion avec la tête du corps qu'est Jésus-Christ, son corps étant l'Église, mais il s'agit de se soumettre aux autorités établies civiles. Cela suggère que le débat d'idées va être libre de toute force civile. Et là, Paul, je reste avec Paul, et cette fois-ci je vais aller dans 2 Corinthiens 10, Paul se fait très clair quand il dit qu'il va combattre, qu'il va utiliser d'arguments, de convictions, il va véritablement combattre en tant qu'apôtre, mais ses armes sont des armes spirituelles, elles ne sont pas des armes, j'allais dire en chair et en os, mais je dirais plutôt en bois et en métal. Alors, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, je vais lire. En effet, si c'est bien dans la chair que nous vivons, ce n'est pas selon la chair que nous combattons. Alors, je précise, je fais une petite parenthèse. Je précise que dans la chair, là, c'est-à-dire dans une condition tout simplement humaine, pas encore au paradis. Ils sont bel et bien les pieds sur terre, dans des situations les plus humaines qui soient, tout simplement. C'est ce que je crois pouvoir résumer, en quelque sorte, ou développer plutôt le mot chair de cette manière. Donc on comprend qu'il est il est citoyen, il est dans la société, comme tout le monde. Hein. C'est bien en société que nous vivons, pourrais-je lire, ce n'est pas selon la société que nous combattons, avec des armes civiles. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair, précisément. Les armes civiles, l'épée, je ne sais quoi. Cependant, elles ont le pouvoir du fait de Dieu de démolir des forteresses. Et là, Paul va utiliser tout un vocabulaire militaire, qu'il va utiliser d'ailleurs dans la lettre aux Éphésiens aussi, quand il compare le chrétien au chapitre 6 à un soldat qui a toute sa panoplie. Ben là, c'est un peu le même registre. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair, elles ont le pouvoir du fait de Dieu de démolir des forteresses. Nous démolissons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous nous emparons de toute pensée pour l'amener captive à l'obéissance du Christ. Alors là, c'est un vocabulaire très guerrier, mais Paul a précisé qu'il n'utilise pas pour faire tout ça les armes civiles, les armes de la société. Ce ne sont pas celles de la chair, dit-il très précisément au verset 4. Alors c'est intéressant de noter ça. C'est-à-dire Paul va développer une énergie énorme à convaincre, à débattre, à apporter, à argumenter. Mais ce ne sera jamais par la force. Par la force physique, la force d'une armée, la force d'une épée, la force de ses poings, la force de, de je ne sais quel stratagème de violence. Paul ne veut pas jouer les gros bras. Il utilise certes un vocabulaire militaire, mais précisément pour parler d'un débat d'idées, d'un combat des idées. Hein. Alors peut-être certains d'entre vous en m'écoutant ont lu le verset 6. Dans ma traduction, en fait c'est un verset qui est difficile à traduire, en plus chez l'apôtre Paul, nous sommes prêts aussi à faire justice de toute désobéissance lorsque votre obéissance à vous sera complète. Alors, je remercie un commentateur qui s'appelle Allo de la deuxième aux Corinthiens, qui était très éclairant à ce sujet, à mon avis, où il explique que tout simplement, quand vous serez au clair là-dessus, quand vous aurez que vous pratiquerez une obéissance saine de l'Évangile, quand vous mettrez bien l'Évangile en pratique, eh bien, on ira s'occuper de ceux qui entordent le sens, de ceux qui sont qui lui désobéissent. Et il faut savoir que dans 2 Corinthiens, il y a énormément de place qui est faite pour la lutte de Paul, au niveau des idées, hein, je précise, contre les contradicteurs, contre les super-apôtres, contre des gens qui se prétendent hyper-spirituels et qui en fait ne sont pas très dignes de confiance d'après l'apôtre Paul. Donc voilà, ce petit verset 6 est simplement une petite mise au point sur la stratégie que l'apôtre Paul développera à Corinthe. Alors, voilà, la laïcité est un terrain dans lequel le débat d'idées est véritable. Dans lequel, véritable au sens où ce sont les idées qui se confrontent, et non pas la puissance militaire de celui qui prône une idée par rapport à la puissance militaire de l'autre, auquel cas ce sera toujours le plus fort, la loi de la jungle, hein, le plus fort qui aura raison. Non, là c'est l'idée la plus pertinente qui l'emportera, quelle que soit la position civile de ses défenseurs. La laïcité est donc un terrain dans lequel le débat d'idées est véritable, dans lequel la seule force de persuasion s'exerce à l'exclusion de toute autre force. C'est exactement ce que Paul entend ou sous-entend en parlant de ces armes qui ne sont pas civiles, mais qui sont des armes spirituelles. Roger Williams, dans la citation que j'ai commencée tout à l'heure, poursuit. Il parlait de que c'est la volonté de Dieu que tout homme soit libre de croire, de croire ce qu'il veut. Et il poursuit qu'il soit combattu, donc ceux qui croient autre chose que l'Évangile, car il parle bien de combattre à ce moment-là, mais sur un plan spirituel, qu'il soit combattu dans le domaine spirituel par aucune autre épée que celle de l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu qui seul peut vaincre. Donc là, Williams est très clair. Il est en droite ligne avec l'apôtre Paul du chapitre de 2 Corinthiens 10. C'est les seules armes spirituelles qui doivent être utilisées. Parlons maintenant d'une autre famille de textes. La première famille était donc ce que j'ai regroupé sous le nom vie civile et vie spirituelle. Deuxième famille de textes sur la laïcité, je l'appelais royaume de Jésus. Souvenez-vous, quand Jésus était devant Pilate et que Pilate lui demande, dit-on, est-ce que c'est bien vrai ce qu'on dit de toi, que tu es le roi des Juifs? Jésus va répondre cette phrase qui, pareil, je pense, résonne encore dans nos oreilles. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est Jean, chapitre 18, donc je vous propose de prendre sous les yeux. Alors, c'est un dialogue où Jésus est arrêté, hein, il est déjà fait prisonnier et en marche, si je puis dire, vers Golgotha. Pilate rentra dans le prétoire, verset 33, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs, toi ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou bien est-ce d'autres qui te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit « Suis-je donc juif, moi ? C'est ta nation et les grands prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, « Toi, tu es donc roi ?» Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ? » Et on ne saura jamais la suite pas ici-bas, la suite de ce dialogue, puisque l'évangile s'arrête là dans son récit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus ne nie pas sa royauté. Et si nous disons que le royaume de Dieu n'est pas le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, nous ne nions pas la royauté de Jésus. Mais il en précise la nature. Elle n'est pas politique. Sinon, d'ailleurs, Jésus le dit bien, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Le seul qui a combattu, c'est Pierre, qui s'est fait remettre en place par Jésus. Donc, le royaume de Jésus n'est pas politique. D'ailleurs, il précise aussi que sa mission n'est pas d'établir son royaume ici et maintenant, mais de, verset 37, rendre témoignage à la vérité. Je pense qu'il y aurait, dans cette petit dialogue de Jésus avec Pilate, il y a tout l'enseignement qu'il nous faut sur la laïcité. C'est-à-dire que nous croyons que Jésus est venu faire naître un peuple qui n'est pas une nation avec un pays, une capitale, une monnaie, un gouvernement, mais il est venu appeler les hommes et les femmes de par toutes les nations à constituer son peuple, dont la réunion ne se fera pas dans ce monde. Et puis, Jésus nous dit, il est venu rendre témoignage à la vérité, n'est-ce pas ? N'est-ce pas notre rôle à nous, dans ce monde, de rendre témoignage à la vérité, nous aussi ? Donc, une fois de plus, Jésus est notre maître dans ce petit dialogue avec Pilate. Et puis alors, l'apôtre Paul est en phase, il y a parfois des nuances entre l'enseignement de Paul et l'enseignement de Jésus, sans dire qu'ils se contredisent, hein, pas du tout. Mais là, en l'occurrence, l'apôtre Paul parle aussi d'une Jérusalem céleste. Et c'est dans la lettre de Paul aux Galates. C'est un texte qui est dans une autre optique hein, que la laïcité. Parce qu'il faut quand même reconnaître que le thème de la laïcité, c'est un thème que nous trouvons... qui est à la fois issu de la Bible, je pense, mais qui n'est pas traité dans un chapitre donné. Nous devons aller un petit peu faire les enquêteurs, et c'est ce que nous faisons avec la lettre de Paul aux Galates. C'est que nous allons chercher, dans un développement qui est sur les deux alliances, l'alliance ancienne et l'alliance nouvelle en Jésus-Christ, donc c'est tout à fait théologique, et sur une comparaison entre l'ancien, le judaïsme et la foi chrétienne. Et l'apôtre Paul explique. Il parle de Agar et de Sarai, ou de Sarah, et puis il dit Agar correspond à la Jérusalem de maintenant, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Je vous invite à relire l'ensemble du texte qui est un peu compliqué, puisqu'il parle d'une allégorie ces deux femmes ont une valeur allégorique. Je voudrais que nous en restions à Jérusalem. Autrement dit, nous chrétiens ne pouvons pas nous réclamer de la Jérusalem civile, de la Jérusalem historique, puisque c'est celle de l'ancienne alliance, de l'esclavage, entre guillemets, puisqu'il va citer Agar, qui était la servante d'Abraham. Verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit « Sois en fête, femme stérile, toi qui n'as pas d'enfant, éclate en cri de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'accouchement, car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. » Alors, notre mère, c'est la Jérusalem d'en haut. Et c'est là tout le propos. C'est que la mère des croyants, autrement dit, celle par laquelle ils vivent, n'est pas une cité terrestre. Ce n'est pas l'Église comme capitale terrestre non plus, mais c'est le ciel, la maison du Père, la cité céleste que dans l'Apocalypse, Jean verra descendre des cieux. Nous sommes le peuple de cette cité-là, qui n'est pas terrestre, qui est céleste. Et donc, il ne s'agit pas d'avoir des visées de règne terrestre. Nous appartenons à la Jérusalem céleste. Donc, c'est tout à fait en phase avec ce que Jésus disait, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». En revanche, il va nous falloir cohabiter avec des personnes qui, dans ce monde, ne partagent pas notre foi. Et ça, Jésus va en donner une image avec la parabole du bon grain et de l'ivraie. Matthieu 13, pardon de papillonner un petit peu dans les pages de ma Bible, dans votre Bible aussi. Matthieu 13, parabole du royaume, le royaume, alors c'est le verset, 24. Il leur proposa cette autre parabole. Il en va du règne des cieux comme d'un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe au milieu du blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, la mauvaise herbe parut aussi. Les esclaves du maître de maison, vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les esclaves lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, je dirai au moissonneur « Arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, puis recueillez le blé dans ma grange. » Alors, il y a ensuite, au verset 36, une explication. C'est intéressant, je la citerai dans un instant. Alors, la lecture que les réformateurs ont faite, d'après les quelques ouvrages que je vous ai cités tout à l'heure, c'est que le champ, c'est l'Église. Et l'Église qui est mêlée de croyants authentiques, de cœur, mais aussi de croyants hypocrites, de gens qui se réclament de la foi sans vraiment la vivre au cœur, dans leur cœur. Alors, la lecture de Roger Williams est différente, puisqu'il dit, attention, le champ dans lequel poussent toutes ces plantes, c'est le monde. Verset 36, puisque là, nous avons une des rares paraboles que Jésus donne, dont Jésus donne l'explication. Alors il laissa les foules entrer dans la maison, ses disciples vinrent lui dire, explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ainsi, tout comme on arrache la mauvaise herbe pour la jeter au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde. Fin de la lecture, au verset 40. Une cohabitation, donc, entre des personnes qui sont du royaume de Dieu, les fils du royaume et les filles du royaume, et puis les personnes qui sont les fils et les filles du mauvais. Alors c'est, d'un côté, on peut dire que c'est très, très blanc-noir. Hein. C'est une vision très, très arrêtée que Jésus donne du peuple de Jésus. Il n'y a pas des gens qui sont entre les deux. C'est soit les gens du peuple de Jésus, soit les autres. Alors, il ne nous appartient pas à nous de dire qui fait partie du peuple de Jésus. C'est à Jésus lui-même de les reconnaître. Mais en tout cas, c'est très clair qu'il y a, il y a l'Église, au sens... Église de Jésus-Christ, Église universelle, indiscernable dans ses frontières précises et décelable dans les communautés locales. Mais quand même, Jésus là donne une image très arrêtée des frontières de l'Église. Et puis, il dit aussi que cette même Église vit d'une véritable cohabitation jusqu'à la fin du monde. Avec les personnes d'autres religions, les non-croyants, les athées, enfin tout le monde. Donc il s'agit bien de reconnaître que le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, au sens où dans ce monde nous côtoyons d'autres personnes, nous sommes mêlés avec des populations très très variées, y compris dans nos propres foyers, dans nos propres familles. Parmi nos collègues, nos voisins, nous sommes sans cesse en contact avec des personnes d'une autre religion ou de pas de religion du tout. C'est le lot de l'Église de Jésus-Christ. C'est ce que nous enseigne cette parabole. Donc la constitution du royaume en tant que peuple identifié autour de son roi n'est pas pour maintenant, c'est plus tard. La Jérusalem céleste, le royaume qui n'est pas de ce monde et qui est d'ailleurs. Alors voilà, le Nouveau Testament donne, à mon avis, le fondement à la liberté de conscience et à l'absence de recours à la force civile en matière spirituelle. La laïcité actuelle traduit pour notre temps ces principes. Venons-en maintenant à quelques mots sur l'actualité de la laïcité. Je vois dans ces beaux principes, quelque part, on pourrait même s'en réjouir, et d'ailleurs nous devons le faire, et nous devons s'y défendre, ces principes, je vois quand même deux écueils à l'heure actuelle. L'islam et l'éthique. Alors tout d'abord l'islam, plus précisément l'islam politique. ce qu'on appelle l'islam politique aujourd'hui, qui a une visée clairement conquérante de la politique, de la vie sociale dans notre pays, dans nos pays. La laïcité devient alors une porte ouverte à un certain islam pour s'imposer dans certains quartiers, dans des salles de sport, on en a parlé assez récemment, pour citer quelques exemples seulement. Cette démarche politique est contraire à la laïcité, mais elle s'en sert. Alors, je voudrais aussi citer, ce qui m'a absolument scandalisé, le Premier ministre malaisien, ou l'ex-Premier ministre, qui ordonne ou qui dit que tous les musulmans doivent tuer des Français par vengeance, je ne sais quel autre sombre motif. C'est un ex-premier ministre qui parle à des religieux, à une religion. Donc on voit bien que là, la différence entre la séparation entre l'État et la religion n'existe pas dans l'esprit de ce premier ministre et hélas dans l'esprit de beaucoup de musulmans. Qui donc verse dans l'islam politique. Ce sont des propos guerriers qui ont été tenus là. Alors, bien sûr, on pourrait être tenté de légiférer sur les religions en tant que telles. La tentation est forte, surtout qu'il y a des violences totalement inacceptables qui sont faites au nom de cette religion-là. C'est compliqué parce qu'on tombe dans des formes de société que nous avons combattues. Sinon, on commence à légiférer sur les religions. Et dont nous avons aussi fait les frais, parce que les huguenots et les évangéliques ont longtemps été combattus par les lois civiles, et on sait les souffrances que ça nous a données. Deuxième écueil que je vois dans la laïcité actuelle, la manière dont elle est vécue, c'est l'évolution éthique de notre pays, en tout cas de France, mais on peut le dire sans doute dans d'autres pays aussi. Par exemple, le cas qui a effrayé la chronique, c'est le mariage homosexuel. Il y a quelques années maintenant. Alors, on pleurait en disant ben, la France perd ses valeurs chrétiennes. Voilà. Et nous sommes inquiets devant plusieurs sujets d'éthique, comme celui que je viens de citer, ou de bioéthique. La société s'éloigne dangereusement des principes bibliques. Donc, deux écueils de taille pour la laïcité. C'est-à-dire qui nous font douter tout à coup du bien-fondé de la laïcité. Ne faudrait-il pas légiférer sur le contenu des religions, ça c'était pour l'islam politique, ne faudrait-il pas interdire le mariage homo ou l'avortement, ça c'est pour les questions éthiques. Je vous rappelle quand même que l'avortement, il y a des gens qui luttent tellement contre, alors pas dans notre pays que je sache, mais qui se sont livrés à la violence, même violence très forte contre des médecins qui pratiquaient les avortements. La tentation est là. C'est vrai que la laïcité est une porte ouverte à l'éloignement, à une prise de liberté, à des prises de liberté multiples par rapport à l'héritage chrétien. C'est tout à fait vrai. Et peut-être que ce sont comment dire, des limites qu'on peut évoquer, ou alors pas forcément des limites, mais des usages qui nous questionnent de la laïcité, des vécus qui nous questionnent de la laïcité. Je me permets quand même de m'acheminer vers ma conclusion, le temps passe. Après ce survol biblique, je réaffirme que la laïcité, la liberté de conscience, le fait qu'on n'use pas de force civile pour convaincre d'une question spirituelle, c'est, je crois, l'héritage que nous gardons de la parole de Dieu. Ce sont les enseignements de Jésus et de Paul, pour le moins, de l'ensemble du Nouveau Testament, devrais-je dire. Le monde actuel, c'est vrai, je l'ai dit il y a un instant avec ces deux sujets qui nous inquiètent en ce moment, le monde actuel est complexe, il est anxiogène même. Mais nous étions prévenus. Une saine vision du monde comme celle que j'ai tenté de vous transmettre tout à l'heure peut nous rassurer, enfin peut-être pas nous rassurer, mais nous apaiser, parce que tout simplement, Jésus voyait le coup venir. La Bible elle-même nous dit des tas de choses sur notre position dans ce monde et sur le fait que non, la France n'est pas un genre d'église, un prolongement de l'église, ou la Suisse un prolongement de l'église, ou l'Allemagne, mais ce sont des pays qui font partie de ce que la Bible appelle bah, le monde, tout simplement, et le monde reste monde aujourd'hui. Je conclus. ne tombons pas dans les tentations extrémistes de violence et de censure. Deuxièmement, portons d'autant plus haut les couleurs de l'Évangile que le monde a plus besoin de les voir. Je vous rappelle que l'apôtre Paul parlait d'armes, de combat, d'abattre des forteresses, mais avec des armes qui ne sont pas celles de ce monde, mais les armes de Dieu. La panoplie d'Éphésiens 6 nous aide à comprendre. Et puis, pour finir, n'oublions pas notre statut théologique de voyageur. L'apôtre Pierre disait « Nous sommes étrangers voyageurs dans ce monde ». N'oublions pas que notre patrie, en tant que chrétien, la patrie définitive, celle à laquelle nous arriverons au bout de notre vie, ce n'est pas ce monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est la Jérusalem, pour reprendre l'image de Paul, la Jérusalem céleste qui est notre mère. Eh bien, souvenons-nous de cela. Cela nous apaisera, je pense aussi, dans un contexte laïque qui reste complexe à vivre. Voilà, je vous encourage en tout cas à vivre toutes ces turbulences, toutes ces questions dans la paix du Seigneur.